Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Eh oui, ça ne vous a pas échappé, c'est le jour J pour les amateurs de football. La Coupe du Monde démarre dans tout juste 6h49, match d'ouverture. Russie-Arabie Saoudite à suivre sur l'antenne Afrique de RFI. Je vous propose donc ce matin de nous livrer vos pronostics. Alors visiblement, si on en croit les sondages, les journalistes, les professionnels, l'Allemagne est la grande favorite. Alors dites-nous si la tenante du titre peut véritablement reconquérir le trophée. On parlera évidemment du Brésil. Autre favori, le Brésil, pourra-t-il retrouver son honneur après le fiasco, la déculottée de 2014? Rappelez-vous de cette défaite, 7-1 face aux Allemands. Les chances de la France, évidemment, l'équipe de France, 20 ans après la victoire des Bleus. Les hommes de Didier Deschamps peuvent-ils aller loin dans ce tournoi? Autre favorite, l'Espagne. L'Espagne en plein psychodrame depuis pratiquement 24 heures après le limogeage de son sélectionneur, se dit jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et j'ai envie de vous entendre évidemment ce matin sur les 5 nations qui représenteront l'Afrique: Sénégal, Nigeria, Égypte, Maroc et Tunisie. Verrons-nous enfin une équipe africaine dans le dernier carré? Vous nous appelez, on a envie de vous entendre ce matin, 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Ça part dans tous les sens. Certains voient le Brésil, d'autres l'Argentine, d'autres le Sénégal, d'autres la France. Bref, même la Belgique est citée parmi vos équipes favorites. On en parlera ensemble dans une trentaine de minutes. Mais pour l'instant, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Encore beaucoup de questions ce matin après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, condamné il y a 2 ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Eh bien, l'ancien vice-président congolais a vu sa culpabilité annulée en appel vendredi dernier devant la Cour pénale internationale. Bonjour Abdelkerim.
Bonjour Wal, bonjour à tous les éditeurs de la BAF internationale.
Merci de nous appeler de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, nous vous écoutons.
Cette décision surprise ne risque-t-elle pas porter atteinte à la crédibilité de la Cour? Et quel peut être l'avenir de la Cour en termes de réformes?
Vous avez raison de vous poser la question, Abdelkerim. C'est vrai que les erreurs qui ont été signalées par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale peuvent discréditer encore un peu plus cette Cour qui est, rappelons-le, très critiquée sur le continent africain. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Abdelkerim.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. C'est vrai que cet acquittement relance le débat sur l'efficacité de la justice internationale. Incontestablement, le verdict rendu vendredi, c'est un coup dur pour la CPI.
Oui, incontestablement, c'est un sacré coup de bambou, si je peux dire. Le fait que dans un premier temps, on puisse dire Jean-Pierre Bemba est coupable, il faut le condamner à 18 ans de prison, et dans deuxième temps qu'il est acquitté, un tel écart de jugement est difficilement compréhensible et ça fait un peu bazar, clairement. D'autant plus, hein, vous le disiez, que ce verdict intervient à un moment où on accuse déjà la Cour pénale internationale d'être très politisée, de ne poursuivre que les Africains et souvent les plus facilement attaquables.
Oui, après un tel revirement dans le verdict, Léa-Lisa Vesterhoff, comment croire à la capacité de la justice internationale de juger des crimes commis?
Ben ça va être tout le travail auquel la CPI va devoir s'attaquer dans les prochains mois, parce que l'autre coup dur de ce verdict, c'est finalement l'échec de la CPI à établir la responsabilité du chef dans le fait de commettre un crime. Vous le savez, Jean-Pierre Bemba était la première personne poursuivie pour cette responsabilité de chef. Tout cela, le fait qu'il était acquitté, envoie finalement un mauvais signal à tous les autres chefs, commandants qui pourraient être concernés par des poursuites. Résultat, certains observateurs estiment que la CPI finalement paie aujourd'hui le prix de sa stratégie très politique, celle impulsée par le premier procureur de la CPI, l'Argentin Luis Moreno Ocampo, qui était procureur jusqu'en 2012. Pourquoi avoir choisi de poursuivre uniquement Jean-Pierre Bemba dans les crimes commis en République centrafricaine? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de mandat d'arrêt contre le président centrafricain de l'époque, par exemple Ange-Félix Patassé, qui est décédé en 2011, ou contre d'autres commandants congolais qui étaient en Centrafrique commandés fait. Je pense notamment à Mustapha Mukiza, qui était le commandant des troupes sur le terrain. Ce choix a clairement fragilisé la CPI dans sa crédibilité. Et cette stratégie du gros poisson, finalement, au détriment du petit fretin, au lieu d'élargir le nombre de prévenus, on se concentre sur un seul cas emblématique. Et ben, ça fait qu'aujourd'hui, le seul prévenu dans cette affaire a été acquitté et les 5229 victimes en Centrafrique se sentent totalement abandonnées.
Oui, en Centrafrique, c'est d'ailleurs la consternation. On a pu entendre certains avocats de ces 5229 victimes sur l'antenne de RFI. La CPI le dit elle-même, Léa Lisa Vesterov, ce verdict a suscité beaucoup d'inquiétude dans ces murs.
Au point que la procureure Fatou Bensouda s'est carrément fendue d'un communiqué hier dans lequel elle revient sur tout ce qui s'est passé et où elle reproche littéralement à ses juges en appel d'avoir utilisé une approche, dit-elle, qui n'avait jamais été utilisée à la Cour pénale internationale, qui apparemment varie énormément des méthodes utilisées jusqu'à présent pour examiner ce verdict. Et elle le dit elle-même, c'est un problème. Si on commence à utiliser ces méthodes, comment allons-nous faire? Elle revient aussi sur la division des juges et le fait que deux juges dans cette affaire ont tenu à faire un commentaire pour expliquer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'était passé. Bref, beaucoup de voix au sein de la CPI disent comment avec des juges aussi sévères, en somme, allons-nous réussir à mener des enquêtes, monter des dossiers d'instruction suffisamment solides pour qu'ils ne soient pas démontés par les juges ensuite. Donc c'est tout un travail auquel la CPI va bien sûr devoir s'attaquer. D'autres juristes, eux, disent finalement que ce verdict, c'est aussi une bonne leçon pour ces voix-là. Le verdict en appel de Jean-Pierre Bemba est la preuve, au contraire, de l'indépendance de la justice et que le respect de la loi prime sur les intérêts politiques de la Cour pénale internationale. Ce qui veut aussi dire finalement que pour le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, dont on parle beaucoup en ce moment, rien n'est joué.
Merci beaucoup Léa Lisa Vesterov d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à Abdelkerim. Encore une question concernant cet acquittement et ses répercussions. Pudence, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous nous appelez d'Abidjan, Côte d'Ivoire.
Voilà, je voudrais savoir, après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, je voudrais savoir avec l'ex-président Laurent Gbagbo, s'il faut s'attendre également à une scène pareille, s'il faut s'attendre à son acquittement également.
Ouais, les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo l'espèrent en tout cas. Laurent Gbagbo, détenu depuis 8 ans, jugé depuis 2 ans par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bonjour Frédéric Gara.
Bonjour Juan et bonjour à Pudence.
Correspondant permanent de RFI à Abidjan, c'est vrai que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba fait réagir en Côte d'Ivoire. Les avocats de l'ancien président comparent le cas de Bemba à celui de Gbagbo. Peut-on s'attendre donc à son acquittement ?
Oui, il y a des raisons de le faire. Comparaison n'est pas raison, mais effectivement, c'est un parallèle qu'on établit beaucoup en ce moment ici à Abidjan concernant cette affaire Bemba. Donc, c'est un peu prématuré pour le dire, bien sûr, même si le camp de l'ex-président ivoirien montre plus d'enthousiasme que jamais concernant une prochaine et hypothétique libération. C'est le cas de la presse bleue, on l'a beaucoup dit sur cette antenne, la presse de l'opposition qui, au lendemain de l'annonce de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, faisait ses gros titres sous le thème de Gbagbo et Blégoudé vers la sortie ou encore Gbagbo arrive, point d'exclamation. Mais on peut toutefois s'interroger, est-ce que les confrères ivoiriens et les partisans de l'ex-chef d'État ne vont pas un peu vite en besogne? D'abord parce que le procès qui a débuté en janvier 2016 est initialement prévu pour durer 4 ans, donc avec un terme programmé hypothétiquement, bien sûr, pour 2020, et qu'ensuite, si Bemba a été acquitté en appel, eh bien Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé, eux, n'ont pas jusqu'ici été condamnés. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'ils le soient. Nous ne sommes qu'en première instance, et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont retenus contre Gbagbo ne sont pas finis d'être jugés. Dans l'hypothèse où Laurent Gbagbo serait condamné, ce n'est alors qu'à ce moment-là qu'il pourrait faire appel pour éventuellement être élargi, comme Jean-Pierre Bemba. Dans le cas inverse d'un acquittement, en première instance, eh bien on peut supposer que la partie adverse, cette fois-ci, fasse elle aussi appel du jugement. Donc on le voit, Juan, on est encore assez loin d'une issue positive ou négative pour Laurent Gbagbo dans son procès à la Cour pénale internationale.
Le seul point tout de même qui puisse apporter de l'eau au moulin des partisans d'une libération proche de Laurent Gbagbo, c'est un parallèle que l'on pourrait établir, Frédéric Gara, avec un autre procès, celui de son épouse, Simone Gbagbo, en Côte d'Ivoire il y a un an.
Oui, tout à fait. Simone Gbagbo qui, dans son second procès en assises pour crime contre l'humanité, ici à Abidjan, devant une juridiction ivoirienne, donc au plateau, au palais de justice, a été acquittée pour aspects identiques d'ailleurs à ceux qui sont reprochés actuellement à son époux au tribunal de La Haye. Jamais l'accusation ici en Côte d'Ivoire n'a pu établir un lien direct, tangible, entre la décision de bombarder par exemple le marché d'Abobo ou bien de mitrailler la marche pro-Ouattara sur la RTI, ça c'était lors de la crise post- et un ordre supposé être donné par Simone Gbagbo ou par sa cellule de crise constituée lors de la crise donc post-électorale. Et c'est justement, Juan, cette faiblesse du dossier des preuves ou des témoignages qu'on a pu entendre, qui ont été apportés lors de ce procès, qui ont certainement poussé le jury à acquitter Simone Gbagbo en mars 2017. Cette absence de lien direct établi, prouvé, c'est ce qui a bénéficié. Si j'ai bien compris, à Jean-Pierre Bemba, donc dans d'autres circonstances, bien sûr, face à la CPI sur le dossier centrafricain, c'est peut-être enfin bien ce qui bénéficie.
Alors, il y a des micro-coupures entre Paris et Abidjan, ce sont les réseaux satellites. En tout cas, Frédéric Gara, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de la capitale économique ivoirienne. Vous êtes notre correspondant permanent sur place. Pudence, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, très bien.
Très bien, on vous souhaite une bonne journée donc à Abidjan où il est 8h22. 33 9 693 693 70. On va parler de la Coupe du Monde de football. C'est la première d'une très longue série de questions. On est parti pour 4 semaines, hein, 32 jours pour être précis. La première question nous vient de Conakry. Bonjour Mossadou.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI et très particulièrement à votre équipe dynamique qui sera censée chaque jour qu'elle est fait pour la réalisation de cette émission.
Eh bien, merci de vos encouragements, nous sommes ravis de les entendre. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ok, aujourd'hui va débuter la compétition la plus importante du ballon rond en Russie, un pays qui organise pour la première fois cette compétition de grande envergure. Et donc à ce titre, j'ai des préoccupations. Celle de savoir quel dispositif sécuritaire mis en place par les autorités russes pour éviter le moindre dérapage comme celui qui est survenu à Marseille lors de l'Euro 2016 avec les hooligans riches. La deuxième question, les autorités vont-ils empêcher les hooligans d'entrer dans le stade durant le tournoi?
Ah, les hooligans russes, effectivement, qui effraient une grande partie des supporters qui se déplacent en Russie pour cette Coupe du Monde. Vous faisiez référence à ces incidents survenus à Marseille lors de l'Euro 2016. C'est vrai qu'on se souvient tous de ces hooligans russes. Ils étaient plus d'une centaine déferlant dans les rues de Marseille pour s'en prendre aux supporters britanniques et notamment dans le Vieux-Port où les affrontements ont été particulièrement violents. Bonjour Daniel Vallot.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI à Moscou, faut-il s'inquiéter des hooligans russes durant la compétition ?
Alors écoutez, la Russie dit que non, absolument pas, qu'elle a tout prévu hein, pour empêcher les violences. L'arme fatale des autorités russes, pour ainsi dire, contre le hooliganisme, c'est le fan ID, le fameux fan ID, en français on pourrait dire le passeport du supporter. Qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui est demandé à tous les spectateurs, en plus de leur billet, document qui leur aura été attribué au préalable après avoir vérifié leurs données personnelles. Et l'idée, donc, c'est de faire en sorte eh bien, que les fauteurs de troubles déjà identifiés ne puissent pas accéder au stade, tout simplement parce qu'ils n'auront pas obtenu leur passeport du supporter, leur fan ID. Exemple, pas plus tard qu'hier, le sulfureux supporter russe Alexandre Shprygin, qui avait été expulsé à deux reprises par la France lors de l'Euro 2016 justement, eh bien, Alexandre Shprygin, hier, s'est vu refuser son fan ID. Il ne pourra donc pas se rendre dans les stades.
Est-ce que ces dispositifs, est-ce que ces dispositifs vont suffire ? Vous nous parliez donc de ce dispositif mis en place. Il y en a d'autres, j'imagine. Est-ce que ce sera suffisant ?
Bien, écoutez, il y a également le travail en amont de la police russe qui a mis en garde personnellement les supporters habitués de la bagarre qu'ils subiraient de très lourdes conséquences s'ils étaient arrêtés durant le mondial. Et de l'avis de plusieurs observateurs, ces mesures prises en amont auront un effet dissuasif absolument majeur. Et puis il y a aussi la coopération avec les pays étrangers, très importante, avec notamment l'Angleterre. Alors est-ce que ce sera suffisant ? Écoutez, sans doute, en tout cas, il y a un autre élément qui pourrait aller dans ce sens-là, c'est le fait que ces hooligans russes, ils sont également patriotes, très souvent, et ils n'ont pas du tout l'intention eh bien, de gâcher la fête et de ternir salir l'image de la Russie à l'étranger. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de débordements, en particulier dans les gares ou aux abords des stades, mais là, la présence policière qui sera massive dans ces endroits-là devrait permettre d'éviter le pire.
Oui, et puis la Coupe du Monde est un enjeu tellement important en termes d'image pour le pouvoir de Vladimir Poutine que tout est mis en œuvre pour éviter le moindre débordement. Merci beaucoup, Daniel Valo. Bonne Coupe du Monde. On vous retrouvera certainement durant les 4 prochaines semaines. Mossadou, bonne journée. À Conakry, on va terminer cette première partie avec Blaise. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Pierre, et bienvenue à Boafoué, capitale de la région de la Marawi.
Eh bien, vous êtes très bien informé, puisqu'effectivement, c'est Pierre-Olivier, journaliste du service France de RFI, qui est à mes côtés, qui va vous répondre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, question Blaise sur la lutte contre les fake news, contre les fausses informations.
C'est bien cela.
On vous écoute.
Alors, la semaine dernière, en France, l'Assemblée nationale a fait des propositions de loi pour lutter contre les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Alors, comment le gouvernement compte s'y prendre pour lutter contre les fake news? Et puis, pourquoi sa proposition de loi suscite tel tas de controverses?
Oui, c'est vrai que ce dispositif proposé par Emmanuel Macron suscite la controverse. Pierre-Olivier, vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale. Il faut d'abord rappeler à Blaise et préciser à tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce projet de loi est destiné à empêcher la diffusion de fausses informations, mais uniquement en période électorale.
Oui, absolument, c'est important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement dans les 3 mois qui précèdent une élection nationale. Alors pourquoi? Eh bien, pour préserver la démocratie et éviter que de fausses informations influencent le vote des électeurs. En fait, voilà la raison principale. Alors, l'objectif de cette proposition de loi, c'est de couper le mal à la racine et d'éviter l'effet boule de neige sur les réseaux sociaux où ces fake news peuvent se propager à grande vitesse. Alors d'abord, cela semble assez logique. La proposition souhaite empêcher la propagation des fake news et pour cela, eh bien, elle prévoit d'imposer aux plateformes internet, ça peut être les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, des obligations de transparence sur tous les contenus sponsorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez déjà dû remarquer, Blaise, quand vous faites défiler votre mur Facebook, par exemple, on vous propose parfois des liens vers des pages qui pourraient vous intéresser. Il peut s'agir d'une publicité pour un produit, par exemple, on va dire une paire de chaussures, ou d'une publicité plus subtile avec un titre un peu racoleur qui va vous pousser à cliquer pour en savoir plus. Et là, patatras, vous venez peut-être de tomber sur un article qui a tout l'air d'un vrai mais qui est entièrement faux. Eh bien, avec la nouvelle loi, Facebook, pour poursuivre notre exemple, aura l'obligation de vous préciser, à côté de cette publication suggérée, des informations sur l'identité de l'annonceur, son pays d'origine, son cœur de métier ou encore le montant qu'il consacre à la publicité. Objectif, vous alerter, attention, ce site pourrait bien diffuser de fausses informations pour le compte d'une puissance étrangère, par exemple. Rappelez-vous, lors de la campagne présidentielle 2016 aux États-Unis, Moscou est suspecté d'avoir fait diffuser massivement des messages hostiles à Hillary Clinton.
Et vous parlez des États-Unis, on précise également qu'Emmanuel Macron a des soupçons concernant l'influence des Russes, s'agissant des nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet pendant la campagne électorale via Internet.
Absolument, il l'avait d'ailleurs dit dans ses vœux à la presse en janvier dernier qu'il voulait lutter contre ces fake news. Et autre gros aspect de cette proposition de loi, c'est justement de pouvoir, en cas de propagation de cette fake news, la supprimer le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, ça peut prendre plusieurs mois entre le moment où vous voyez, par exemple, sur vous, Juan, une fake news sur Internet vous concernant, vous saisissez la justice, mais la justice, avec le temps que ça prend, peut agir en plusieurs mois. Là,
le juge aura 48 heures.
On peut saisir, vous pouvez, si c'est vous qui êtes la cible de cette fake news, saisir le juge en référé, c'est la procédure d'urgence qui permet au juge de statuer en 48 heures et il pourra, avec cette nouvelle loi, faire supprimer et faire fermer un site internet.
En deux mots, rapidement pour répondre à Blaise, sa deuxième question, pourquoi cette proposition de loi suscite-t-elle la controverse?
Eh bien alors on l'imagine assez facilement, c'est surtout le pouvoir qui sera donné au juge qui peut faire peur, c'est-à-dire que en 48 heures, il devra mener une enquête et statuer sur la véracité ou non d'une information, sachant que parfois les fake news sont très poussés et ont tout d'une vraie et il peut y avoir des faux documents, des fausses signatures et donc on se demande comment le juge pourra statuer aussi rapidement sans commettre d'impair, on peut dire.
Et certains s'inquiètent également sur les dangers pour la liberté d'expression.
Alors voilà, aussi comme c'est en période électorale, il y a notamment des partis politiques comme la France Insoumise ou encore le Rassemblement National qui émet des doutes sur est-ce que ça pourrait pas être le gouvernement qui
est derrière.
Censure.
Merci beaucoup Pierre-Olivier, bonne journée Blaise.